France Musique.
The next stop is 42nd Street.
Come here, venez.
Laurent Vallière, 42e rue.
Bonjour à tous. Au fil des années, les journalistes l'ont surnommé au choix le Petit Prince ou le Peter Pan du théâtre. À 32 ans, en 2014, il électrisait déjà le Festival d'Avignon en créant un spectacle de 18 heures auquel on assistait comme on regarde avidement tous les épisodes d'une série, Henri VI de William Shakespeare. Suivra l'esprit rock et les projecteurs lumineux de sa traduction scénique de Richard III, du même Shakespeare, il n'aime pas le mot metteur en scène, puis des œuvres musicales, Elio Gabalo de Francesco Cavalli à l'Opéra de Paris, en attendant son Roméo et Juliette de Gounod en juin, et puis le clair-obscur, magnifique Fantasio de Jacques Offenbach à l'Opéra Comique, avec pour maître mot le texte, le souci de bien le faire entendre, et en finir avec ce qu'il appelle le culturellement correct. Alors cet automne est son automne, non seulement le président Emmanuel Macron l'a personnellement reçu durant une heure sous les dorures de l'Élysée pour lui confier la création des cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques en 2024, mais après 3 mois de gestation, il vient d'accoucher en public de sa première comédie musicale, une nouvelle adaptation 40 ans après sa création de Starmania, enfin... Faut pas dire comédie musicale, mais opéra rock, selon le producteur du spectacle, fils de France Gall et Michel Berger. Bonjour Thomas Joly.
Bonjour Laurent Vallière.
Merci de venir sur la 42e rue Merci. De France Musique. Aujourd'hui, c'est vous qui faites la programmation musicale.
I could while away the hours, conferring with the flowers, consulting with the rain. And my head, I'd be scratching while my thoughts were busy hatching if I only had a brain. I'd unravel every riddle for any individual in trouble or in pain.
With the thoughts you'd be thinking, you could be another Lincoln if you only had a brain.
Oh, I could tell you why the ocean's near the shore. I could think of things I never thought before, and then I'd sit and think some more. I would not be just a nuffin, my head all full of stuffin, my heart all full of pain. I would dance and be merry, life would be a ding-a-derry if I only had a brain.
Wonderful Wizard of Oz. We hear he is a wizard of a whiz, if ever a whiz there was. If ever, oh, ever a whiz there was, the Wizard of Oz is one because of the wonderful things he does. We're off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz.
Follow the yellow brick road, follow the yellow brick road.
Thomas Joly, programme 42e rue. Et alors donc, vous avez choisi Le Magicien d'Oz. Bon, ça, à la limite, je peux le comprendre, mais vous avez choisi ce titre en particulier,
Follow the Yellow Brick Road. Ouais.
Qu'est-ce que ça évoque pour vous?
Je n'ai malheureusement pas vu le spectacle en vrai, mais j'avais à la maison une VHS avec Le Magicien d'Oz et j'avais pas la fin. C'est-à-dire que mes parents avaient certainement enregistré le film quand il est passé à la télé, mais la cassette s'est arrêtée. Donc je ne connais pas la fin du Magicien d'Oz, mais ce passage où Dorothy part en suivant la route jaune, en spirale, avec tout ce monde autour après l'apparition de la sorcière, etc., c'était un passage que je regardais en boucle.
Et parce que
je sais pas, ces souliers, tout ce monde merveilleux, en même temps un peu merveilleux, mais en même temps très inquiétant. J'avais un rapport, mais comme pour beaucoup d'œuvres, quand j'étais petit, fasciné, admiratif en même temps. Mais comme aujourd'hui d'ailleurs. je reste fasciné et inquiété aussi, voilà, plutôt.
Oui,
inquiété.
Les personnages des Munchkins font un peu peur.
Ils me font peur, mais la sorcière fait peur. Le film fait peur. Il y a une ambiance dans ce film que je trouve un peu horrifique, qui, moi, on connaît mon goût pour les monstres et les choses un peu freak. Voilà, je retrouvais ça dans Le Magicien d'Oz.
À quel âge?
J'avais 4-5 ans.
Ah oui,
comme ça. Ah bah oui, c'est tout petit.
Oui, ça marque.
Tout petit, ouais. Mais c'est comme Fantasia, par exemple. C'est le premier film que ma maman m'a envoyé voir au cinéma. Et j'ai fini sous le siège parce que au moment de l'apocalypse, les dinosaures, etc., j'étais terrorisé. J'ai comme ça des moments marquants qui ont certainement conditionné mon goût du spectacle et puis mon travail aujourd'hui, c'est sûr. Et Magicien d'Oz en fait partie.
Alors ça commençait bien avec vous parce que quand je vous ai demandé de venir programmer 42e rue, vous m'avez fait une réponse vraiment. Vous m'avez dit la comédie musicale, c'est vraiment pas mon truc. Bon, vous mettez en scène quand même Starmania. Je sais que c'est un opéra rock, mais qu'est-ce qui vous déplaît dans le genre?
Mais c'est pas que ça me déplaît, c'est que j'y connais pas grand chose en réalité. J'ai malheureusement pas vu beaucoup de spectacles. J'en ai vu, pour être tout à fait honnête, deux. J'ai vu Hamilton, ouais, à Londres il y a 3 ans et Podane quand il avait été créé au Châtelet il y a pareil 3 ou 4 ans, et c'est tout. Je n'ai jamais vu de comédie musicale.
Mais par contre...
Mais à la télé, oui.
À la télévision.
Ouais, en film. Ouais. Chicago, Magicien d'Oz, donc, Moulin Rouge, et puis tous les Bob Fosse, voilà.
Ouais, et c'est ça, vrai. C'est quelque chose que vous appréciez ou vous regardiez avec un côté genre du coin de l'œil
Ah non, non. Alors, moi, je suis, par exemple, Sweet Charity, clairement, et un choc. Moi, j'ai adoré ce film. Les chorégraphies, la mise en scène, parce que ce que je trouve fascinant, et c'est pour ça que quand on m'a proposé Starmania, j'étais un peu content, c'est que la comédie musicale offre une possibilité de créativité scénique et d'onirisme, etc., que je trouve merveilleuse, en fait, en tant que créateur, pour le coup, scénique. Et donc, moi, je regarde ces films avec... avec goût, vraiment. Je ne juge pas du tout la comédie musicale, hein, que les choses soient claires. Je trouve que c'est un genre génial. Juste, je ne m'étais jamais frotté.
Alors, Sweet Charity, un film de Bob Fosse en 1969. Pourquoi ce film vous marque? Il n'est pas trop connu, avec Shirley MacLaine, ouais, l'histoire de Charity qui travaille comme danseuse dans un club, qui rêve à l'amour, qui passe son temps à se faire avoir par les hommes, et puis finalement tombe amoureuse d'un timide agent d'assurance. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce film?
La musique. La musique, et puis les tableaux chorégraphiés, et puis la mise en scène. Moi, je garde un souvenir fasciné de Big Spender, par exemple, dans ce film, ou du final, dans les rues, avec toute la fanfare derrière le personnage, dans les fontaines, etc.
À Central Park, hein.
C'est ça. Et moi, par exemple, ce type de mise en scène monumentale, avec des dizaines, voire des centaines de danseurs, acrobates, ou aussi quelque chose qui m'a beaucoup inspiré pour Starmania, pour le gourou marabout, puisque c'est un personnage qui fait son grand retour dans Starmania. Toute la séquence dans le parking souterrain, le titre m'échappe, The Rhythm of Life.
Daddy started out in San Francisco, tooting on his trumpet loud and mean.
Suddenly a voice said, go forth, Daddy, spread the picture on a wider screen.
And the voice said, Daddy, there's a million pigeons waiting to be hooked on new religions. Hit the road, Daddy, leave your common law wife. Spread the religion of the rhythm of life. And the rhythm of life is a powerful beat. Puts a tingle in your fingers and a tingle in your feet. Rhythm in your bedroom, rhythm in the street. Yes, the rhythm of life is a powerful beat.
To feel the rhythm of life, to feel the powerful beat, to feel the tingle in your fingers, to feel the tingle in your feet. Daddy, go, 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 go. Tell them there's sweetness.
Daddy spread the gospel in Milwaukee. Took his walkie-talkie to Rocky Ridge.
Blew his way to Canton, then to Scranton, till he landed under the Manhattan Bridge.
Daddy was a new sensation, got himself a congregation, built up quite an operation down below.
With the fire-eyed piper blowing, while the musket bell was flowing, all the cats were go-go-going
down below.
Daddy was a new sensation.
With a fire-eyed piper blowing, while the musket bell was flowing. Flip your wings and fly to daddy. Flip your wings and fly to daddy. Flip your wings and fly to daddy. Fly, fly, fly to daddy. Take a dive and swim to daddy. Take a dive and swim to daddy. Take a dive and swim to daddy.
Swim, swim, swim to daddy.
Hit the floor and crawl to daddy.
Hit the floor and crawl to daddy. Hit the floor and crawl to daddy. Crawl, crawl, crawl to daddy.
And the rhythm of life is a powerful beat. Put the tingle in your fingers and a tingle in your feet. Rhythm in your bedroom, rhythm in the street.
Yes, the rhythm of life is a powerful beat. To feel the rhythm of life, to feel that powerful beat. To feel the tingle in your fingers, to feel the tingle in your feet.
Wings and fly to your daddy. Take a dive and swim to your daddy.
Hit the floor and crawl to your daddy.
Daddy, we got the rhythm of life, of life, of life, of life.
Yeah.
Yeah.
Let me hear it.
Yeah.
Sock it to me.
Yeah.
Let it all hang out.
Yeah.
And now, the six merry murderesses of the Cook County Jail in their rendition of The Cell Block Tango.
So I said to him, I said, you pop that gum one more time. And he did. So I took the shotgun off the wall and I fired two warning shots into his head.
He had it coming. He had it coming. He only had himself to blame. If you'd have been there.
I met Ezekiel Young from Salt Lake City about 2 years ago, and he told me he was single, and we hit it off right away. So we started living together. He'd go to work, he'd come home, I'd fix him a drink, we'd have dinner. And then I found out. Single, he told me. Single my ass. Not only was he married, Oh, no. He had six wives. One of those Mormons, you know? So that night when he came home from work, I fixed him his drink, as usual. You know, some guys just can't hold their arsenic.
He had it coming. He had it coming. She took a power in his pride. And then he used it. And he abused it. It was a murder, and not a modest relationship.
Now I'm standing in the kitchen, carving up the chicken for dinner, minding my own business. In storms my husband Wilbur in a jealous rage. You've been screwing the milkman, he says. He was crazy, and he kept on screaming, "You've been screwing the milkman!" And then he ran into my knife. He ran into my knife 10 times.
If you'd have been there, if you'd have seen it, I bet you would have done the same.
Meet Kirishikerin. Ось мон якоє хірошло кумлефок томофєрін. Ін ми глечіп томофєр. Де не ми гос. Ін артот лом войок. Не тудом. Мерт мон я анкл сам хок ін тан там. Пробол том. Аренда шенген мег моя разні. Ті намер татек мег.
Yeah, but did you do it?
Not guilty.
My sister Veronica and I had this double act, and my husband Charlie traveled around with us. Now, for the last number in our act, we did these 20 acrobatic tricks in a row. 1, 2, 3, 4, 5, splits, spread eagles, backflips, flip-flops, one right after the other. So this one night before the show, we're down at the Hotel Cicero, the three of us boozing, having a few laughs. And we ran out of ice, so I go out to get some. I come back, open the door, and there's Veronica and Charlie doing number 17, the spread eagle. Well, I was in such a state of shock, I completely blacked out. I can't remember a thing. It wasn't until later, when I was washing the blood off my hands, I even knew they were dead.
They had it coming.
They had it coming.
Lipschitz more than I could possibly say. He was a real artistic guy, sensitive, a painter. But he was always trying to find himself. He'd go out every night looking for himself, and on the way, he found Ruth, Gladys, Rosemary, and Irving. I guess you could say we broke up because of artistic differences. He saw himself as alive, and I saw him dead.
Dirty bomb.
Number 17, the spread eagle.
Differences. Pop.
Six. Squish. Cicero.
Lipschitz.
Thomas Joly, programme 42e rue aujourd'hui sur France Musique, et notamment choisi cet extrait du film Chicago de Rob Marshall, le Cell Block Tango. Tout à l'heure, vous nous disiez que Sweet Charity, le film de Bob Fosse, vous avait inspiré des chorégraphies dans Starmania. Ouais. Est-ce que le film Chicago vous a inspiré des choses aussi pour Starmania?
Ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est à quel point il s'inspire, il va piocher dans le spectacle, alors que je n'ai pas vu, mais sur le scénique. Toutes ces transitions entre le monde cinématographique et le monde de la scène. est très très réussi, je trouve, dans ce film-là. Et oui, il y a souvent des images qui m'ont marqué dans ce film, c'est au moment où Roxy descend sur son grand nom fait de néon, ou toute la scène avec les miroirs, par exemple, ou la pureté aussi du noir, comment est-ce que les choses émergent de l'obscurité dans ce film-là. Ça, oui, ça inspire beaucoup de mes spectacles. Au tout départ, par exemple, au moment de la grande discothèque de Zéro Janvier, le Nazi-Land, qui se trouve tout en haut de la tour dorée Zéro Janvier, je voulais qu'il y ait un énorme Zéro Janvier comme ça, comme celui de Roxy, qui tourne et sur lequel les danseurs, enfin les invités du Nazi-Land, fêtaient la victoire de l'homme le plus puissant de l'Occident. Voilà, bon, on n'a pas gardé cette idée, mais ça a été à un moment donné dans la réflexion. Ouais.
C'est vrai que Chicago, le film et la comédie musicale étaient très épurés, beaucoup de noir derrière et très peu de décors, très peu d'accessoires. Qu'est-ce que ce noir apporte sur une scène ?
Moi, je pars toujours de ce principe de partir d'un espace noir, vide et silencieux. Je pars de là, et à partir de là, on peut tout créer. Et c'est vrai que si on regarde bien mon travail, c'est toujours très, très noir et ça sort toujours du noir, quoi. Et là, sur Starmania, peut-être d'autant plus, puisque Michel Berger disait lui-même que c'était une œuvre où les forces de l'obscurité et de la lumière se confrontaient. C'est assez lisible, les forces noires, ce sont celles qui retiennent les personnages au fond d'eux-mêmes, c'est-à-dire les forces de la dépression, de la langueur, de la mélancolie, de la vacuité, du sentiment de ne pas avoir de sens à son existence. Et ils vont tous vers la lumière, lumière qui les attire mais qui va aussi les condamner, et le noir c'est aussi ce monde terrible qui est décrit dans Starmania, donc c'était à mon avis la bonne couleur.
Et alors, extrait de Chicago, c'est vous qui l'avez choisi, pourquoi ce monologue successif de cette meurtrière?
Parce que c'est très théâtral.
C'est très shakespearien.
C'est théâtral, c'est scandé, chanté, c'est narratif, on voit comment la musique aussi appuie certaines intentions internes des personnages, la chorégraphie, quand on repense aux images aussi, est très très bien foutue sur des reconstitutions avec des petites choses toutes simples, par exemple le sang, ce sont des bouts de tissu. Bon, moi ça par exemple, je l'ai piqué. On a le droit. Je l'ai piqué dans Henri VI, par exemple. Tous les meurtres sont faits avec des chiffons rouges qui jaillissent comme ça des personnages. Donc c'est une séquence très, très réussie théâtralement parlant, d'après moi.
42e rue, Laurent Vallière, France Musique.
Noir, c'est noir, avec Thomas Joly. J'ai l'impression, qui programme aujourd'hui 42e rue, j'ai l'impression que vous aimez bien les œuvres un peu sombres. Prochain choix, c'est un barbier dans le Londres très pré-industriel, sombre, d'où émergent des gouttes de sang, puisqu'il égorge ses clients, c'est Sweeney Todd.
Ouais, et il en fait des tartes.
Et il en fait des tartes. Enfin, Stephen Sondheim, auteur, compositeur. Ça, c'est aussi par le cinéma que vous l'avez découvert,
ouais,
cette œuvre, Tim Burton.
Tout à fait, Tim Burton. Et puis bah, là, on parle de sang, on parle de meurtre, on parle de monstres. Et là, on est, là, je suis chez moi. Chez moi, je dirais pas dans la vie, hein, artistiquement parlant. Ce pitch est absolument... D'ailleurs, qui est inspiré, je crois, d'une histoire qui s'est passée en France, enfin d'une légende parisienne, me semble-t-il. Ce scénario est dingue. Est dingue, et les musiques sont dingues, et le film, moi je l'ai trouvé, j'ai été absolument, je connaissais pas du tout, et j'ai découvert ça, et j'ai été horrifié, et fasciné, et tout de suite mon appétit artistique était allumé, évidemment.
Et c'est presque un opéra, en fait, là, pour
vous
qui avez l'habitude de mettre en scène des opéras, enfin, qui en avez mis en scène.
Mais en fait, c'est ça que je trouve assez... assez fascinant, et même sur Starmania, c'est la même chose. En fait, moi, je réfléchis pas en termes ou de comédie musicale ou d'opéra ou même de théâtre. Je réfléchis en termes de spectacle et à chaque histoire, son outil de performance, ou je ne sais comment dire, la voix, la musique, le texte, la scène, etc. Si on peut cumuler tout ça, et Sweeney Todd, à mon avis, est dans ce rayon-là, tout comme Starmania d'ailleurs et bien d'autres, moi, c'est là où je suis plus heureux.
Et vous aimeriez le mettre en scène, Sweeney Todd ?
Ah, mais si on me propose Sweeney Todd, je signe immédiatement. Je ne réfléchis même pas. J'arrête tout même. Je fais Sweeney Todd. Clairement.
On écoute le prologue de Sweeney Todd ?
Allez.
I have sailed the world, beheld its wonders, from the Dardanelles to the mountains of Peru. But there's no place like London.
No, there's no place like London.
Mr. Todd?
You are young, life has been kind to you. You will learn. hole in the world like a great black pit, and the vermin of the world inhabit it, and its morals aren't worth what a pig could spit, and it goes by the name of London. At the top of the hole sit a privileged few, making mock of the vermin in the lower zoo, turning beauty into filth and greed. I too have sailed the world and seen its wonders, for the cruelty of men is as wondrous as Peru, but there's no place like London.
Is everything all right, Mr. Todd?
I beg your indulgence, Anthony. My mind is far from easy. In these once familiar streets, I feel shadows everywhere. There was a barber and his wife, and she was beautiful. A foolish barber and his wife, she was his reason and his life, and she was beautiful, and she was virtuous, and he was naive. Another man who saw that she was beautiful, a pious vulture of the law, who with a gesture of his claw removed the barber from his plate. Then there was nothing but to wait, and she would fall, so soft, so young, so lost, and oh, so beautiful.
Lady, sir, did she succumb?
Oh, that was many years ago. I doubt if anyone would know.
I'd like to thank you, Anthony. If you hadn't spotted me, I'd be lost on the ocean still.
Will I see you again?
You might find me if you like. Around Fleet Street, I wouldn't wonder.
Until then, my friend.
There's a hole in the world like a great black pit. It's filled with people who are filled with shit, and the vermin of the world inhabit it.
Un grand bol de strychnine, des liers de la morphine, faites dire à la casserole un bon verre de pétrole. Oh, je vais en mettre deux. Quelques gouttes de ciguë, de la bave de sangsue, un scorpion coupé très fin.
Et un peu de poivre en grain.
Non.
Ah,
bon.
Émiettez votre arsenic dans un verre de narcotique, deux cuillères de purgatif qu'on fait bouillir à feu vif. Oh, je vais en mettre trois. Dans un petit plat à part, piédir du sang de lézard, la valeur d'un dé à coudre.
Et un peu de sucre en poudre.
Non.
Ah,
bon.
Vous versez la mort au rat dans du
venin de cobra pour adoucir le mélange. Presser trois quartiers d'orange. Oh, je vais en mettre un seul. Décoré de fruits confits, moisi dans du verre de grès, tant que votre pâte est molle.
Et un peu de vitriol.
Non! Oui!
Ah, je savais bien que ça serait bon. Le pudding à la Sonic nous permet ce pronostic. Demain sur les bords du Nil, que mangeront les crocodiles?
Des
go
loin.
Yeah.
Vous avez reconnu Thomas Joly, parce que c'est moi qui l'ai choisi ce morceau.
Le pudding à l'arsenic et un peu de sucre en poudre. Merci de ce choix.
Qu'est-ce que c'est?
Bah, c'est mon enfance aussi, ça. Évidemment, je les ai vus tout petits, moi, ces dessins animés, Astérix et tout ça. Et évidemment, petit. Pareil, on est sur un morceau qui est à la fois entraînant, mais qui fait peur. Enfin, moi, ça me faisait peur.
Ah, bah, hein, c'est quand même quelqu'un qui essaye d'empoisonner.
Évidemment. En fait, faut peut-être pas s'étonner qu'au bout d'un moment, je montre que des pièces où les gens s'entretuent, se mangent les uns les autres, etc. Bien.
Alors, c'est un extrait pour ceux qui n'ont pas reconnu et qui n'ont pas la culture de Thomas Joly, de Astérix et Cléopâtre, film de 68, dessin animé, René Goscinny, Albert Uderzo, musique Gérard Calvi. C'est vrai que vous rejouiez les scènes de ce dessin animé avec vos petits copains
c'est
quand vous étiez petit.
Vrai. Surtout Astérix et Cléopâtre. Tout à fait vrai. Il y a des... oui. Et par contre, je faisais Cléopâtre. C'était
ah oui, mais elle chante pas dans...
Non, mais je faisais les paroles parlées.
Ça donnait quoi, vous vous rappelez?
Bah, il y a... Il y a un truc avec son goûteur, attendez. Elle a un mot, pardon, j'avais 6 ans, hein, Laurent, ouais. Hein, donc c'est
Cléopâtre à 6 ans, d'accord.
Il y a une photo de moi avec un éventail dans la main et en toge dans mon jardin, effectivement. Mais rien ne me revient là, mais c'est tout à fait vrai.
C'est vos débuts au théâtre?
Bah, c'est les premiers... les premières fois où je joue devant mes parents, hein, avec mes amis et ma petite sœur, et les amis de mes parents, des morceaux de pièces et où je mets des chaises en rang dans les jardins. Et oui, effectivement.
Vous écriviez un petit programme aussi?
On comme répétait, on faisait un petit programme, on faisait même des billets d'entrée.
Ouais.
On déchirait les billets et
non.
Tout ça. Ah bah bien sûr. Et mais il y a plein d'enfants qui font ça. Et moi, c'est vrai que j'ai fait ça tout petit. Il y avait ce fameux bouquin aussi de Pierre Gripari, cette farce pour écolier que je crois que j'ai monté en entier dans ma chambre avec mes amis. Bon, voilà, il y avait ce goût de jouer, de créer, de présenter des spectacles.
La représentation durait combien de temps? Par exemple, pour Astérix et Cléopâtre, vous le jouiez en entier?
Ouais, Non, je pense que ça durait vraiment 10 minutes. C'est 10 minutes, mais ça nous prenait l'après-midi entière. Et c'est ça qui était chouette, d'aller prendre un drap pour faire une toge. Enfin, ce côté débrouillard, enfantin, ludique finalement de mon métier, ça m'a jamais quitté.
Alors, autre choix plus connu, là vraiment c'est votre choix, c'est pas le mien. Un film de Jacques Demy. Alors, je pensais que vous alliez me donner, je sais pas, moi, les Parapluies de Cherbourg, les Demoiselles de Rochefort. Non, là, on continue dans le conte. Peau d'âne,
ouais.
Vous l'avez vu en film ou vous l'avez vu sur scène?
J'ai vu les deux. Ah bah là, pour une fois, ouais. Je veux dire que j'ai vu le spectacle quand il a été
alors,
créé.
Alors vous qui avez un œil de théâtre, c'est pas facile hein, d'adapter sur scène un film musical. Ça marchait, ça marchait pas?
Alors déjà, c'est dur de monter un conte avec autant de féerie en faisant un film, même si je trouve que Jacques Demy a fait un film fabuleux. Et après, il y a en plus l'inceste finalement du film pour le spectacle, où il y avait des choses réussies, mais j'avoue, j'étais un peu perturbé par l'univers, l'onirisme. J'ai pas retrouvé l'onirisme que permettait le cinéma, mais c'est parce que aussi c'est pas le même outil. Quand j'ai vu le spectacle qui par ailleurs était bien chanté avec des artistes super dedans, mais j'ai pas retrouvé ça. Et puis non, bah pareil, un conte qui est quand même qui frotte, il est étonnant, ce conte de cette jeune fille avec son papa, de cette fée, de cette peau d'animal mort qu'on se met sur le dos. Enfin, il y avait quand même tout un univers, encore une fois, bizarroïde, que moi j'ai découvert petit avec le film, hein, qui m'avait tout de suite fasciné. Ouais.
Et alors, pourquoi choisir Delphine Seyrig dans le rôle de la bonne fée?
Parce que cette chanson est géniale. Et puis parce que Delphine Seyrig est incroyable dans ce rôle-là. Et puis parce que quand j'étais petit, bah, moi, mon personnage préféré, c'était pas Peau d'âne, c'était la fée, très clairement.
Parce qu'elle est gentille.
Oui, la bonne marraine, la fée.
La situation mérite
mon sillon. Mon enfant, mon épouse, jamais ses parents. Vous aimez votre père, je comprends. Quelles que soient vos raisons, quelles que soient pour lui vos sentiments. Mon enfant, on n'épouse pas plus sa maman. On dit que traditionnellement, des questions de culture et de législature décidèrent en leur temps qu'on ne mariait pas les filles avec leur papa. Un prince, une bergère peuvent bien s'accorder quelquefois, mais une fille et son père, c'est ma foi. Un échec assuré, une progéniture altérée. Mon enfant, il vous faut oublier à présent ces fantasmes démoralisants. Et vous rencontrerez un charmant va-nu-pied ou un prince mendiant. Mais de grâce, oubliez cet hymen insensé. Mon enfant, la vie vous offrira ses présents. Mais il vous faudra auparavant vous conformer au plan que j'ai conçu pour vous savamment. Mon enfant, ne craignez pas les égarements. Je vais vous éclairer brillamment. Je vais vous protéger. J'ai pour vous un chemin par mes soins tout tracé. Mais de grâce, écoutez, j'ai tout manigancé.
Delphine Seyrig.
Pas si bonne, hein, cette marraine l'a fait, si on écoute bien cette chanson.
Oui, dites-moi pourquoi.
Bah, inquiétante.
Alors
elle,
Thomas Joly.
Elle intrigue. Elle est une intrigante, cette fée. Et c'est intéressant parce que justement, derrière le côté. Moi, ce que j'adore dans Podane et dans ce qu'on a fait Jacques Demy, c'est que derrière le côté un peu sucré et très, on va dire, paillettes, colorées. Peut-être même un peu niaiseux de l'esthétique, il y a quelque chose qui gratte, qui frotte, qui inquiète. Et je trouve que c'est très bien retranscrit et dans la musique et dans le film.
Si on vous demandait de mettre en scène les Demoiselles de Rochefort, par exemple, c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Ça gratte pas beaucoup, celui-là, peut-être.
Disons que quand même, l'univers de Jacques Demy est tellement puissant que comment travailler aujourd'hui à reprendre ce monument-là. Vous savez, la chance que j'ai moi avec Starmania, c'est que la première captation de la première création de Starmania en 79,
elle n'existe pas.
Et voilà. Et je pense que c'est ce qui fait
on peut pas
que
comparer.
L'œuvre aujourd'hui est si malléable aussi, et que du coup, elle permet qu'on puisse se projeter, qu'un artiste, un metteur en scène, et il y en aura évidemment d'autres, puissent se projeter dessus.
Et donc, de prendre un film comme Les Demoiselles de Rochefort et de les projeter sur une scène, quel est le risque, en fait?
Je pense que le risque, c'est forcément la question du palimpseste. Ce que je disais, c'est que on cumule, finalement, il faut travailler avec l'esthétique de Jacques Demy et trouver comment est-ce qu'on la renouvelle de l'intérieur. Mais c'est vraiment une esthétique qui est tellement puissante, tellement singulière, que est-ce que c'est pas trop risqué? Je sais pas, je me poserai la question. Ce serait pas comme Sweeney Todd, je me poserai la question plusieurs fois.
42e rue, Laurent Vallière, France Musique.
Avec Thomas Joly qui programme 42e rue aujourd'hui. Alors, ce n'est pas un spécialiste de la comédie musicale, il nous a bien expliqué l'histoire. Mais par contre, il y a plein de morceaux de musique qui l'ont hanté depuis qu'il est enfant. Alors, il y en a un en particulier que vous voulez nous faire découvrir ou redécouvrir.
C'est tout à fait le mot hanté. Alors, écoute, il faut comprendre que j'ai dans ma chambre ce qu'on appelait un tourne-disque. Moi, j'appelais ça comme ça. Très petit. Et j'ai des disques. Je ne sais pas d'où ils viennent, ces disques. C'est mes parents, évidemment, qui me les ont certainement mis là. Et donc, je découvre ma propre discothèque. Et dans cette discothèque, il y a un disque de Steve Waring et une chanson qui s'appelle « Les grenouilles ». Et non seulement elle m'horrifiait, petit, cette chanson, mais je n'arrêtais pas de la remettre et de jouer dans ma chambre, décidément, pauvre petit enfant. Cette situation de ce petit garçon, on va écouter la chanson, qui se promène et qui entend, qui commence à comprendre le langage des grenouilles. Après, c'est magnifique. Aujourd'hui, vu d'aujourd'hui, c'est splendide, cette œuvre de Steve Waring, encore une fois, très théâtrale. Mais à l'époque, c'était horrifique pour moi.
Jingla pungla, jingla pungla, jingla pungla, baby. Jingla pungla, jingla pungla, jingla pungla, baby. Il était une fois un petit garçon qui aimait bien se promener à la campagne.
Et un bel après-midi, il est allé se promener du côté des marécages. Là où les sols pleurent sur la terre et l'air est tout mouillé. Et la mousse qui descend des cyprès ressemble à un monstre à l'œil maussade. Juste à l'endroit où vivent les grenouilles. Eh bien, ce petit garçon, il s'assoit sur un tronc d'arbre et il écoute les grenouilles. D'abord, elles ne parlent que le langage des grenouilles, quoi. Quelques-unes disent... Il y en a d'autres qui font... Les plus grosses. Et même de temps à autre, on entend certaines grenouilles qui font... Bientôt, du garçon, il ferme les yeux pour mieux entendre. Il écoute encore les grenouilles. Et là, il découvre que les grenouilles ne parlent plus le langage des grenouilles. Pas du tout. Elles parlent le langage des gens. Il y en avait une qui disait, par exemple...
Out, 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 out. Out, 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 out. Out, 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 out.
Et une autre répond en disant et encore une autre demande
où ça, où ça, où ça, où ça, où ça, où ça, où ça.
Un crapaud de répondre
dans la boue, dans la boue. Dans la boue, dans la boue. Dans la boue, dans la boue, dans la boue.
Et un très vieux grand-père qui chantait presque, qui dit...
Enlève-le. Enlève-le.
Et une toute petite grenouille, elle dit...
Je peux pas, 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 je
peux. Et puis... Le chef de la tribu, en américain on dit « the boss frog », avec les yeux gros et verts, il sort la tête de l'eau et il dit « Oh !» Et toutes les grenouilles, elles sautent dans l'eau et elles nagent au loin en faisant
Johnny Rockefeller.
En attendant, nous retournons dans le feu de la discussion.
Je vous encourage à la violence. C'est une réaction saine contre la décadence.
Moi aussi je suis pour la violence. Elle servira ma cause, du moins c'est ce que je pense. Silence !
Quand le peuple en aura assez,
assez !
Pour sa sécurité, il votera PPPP.
Et maintenant Starmania, ouais, avec la version originale de 1979, Thomas Joly. On entendait Violette Vial dans le rôle de la speakerine, Étienne Chicot dans celui de Zéro Janvier, Roddy dans celui du gourou, René Joly dans celui du présentateur Roger Roger. Vous avez réinstauré dans votre nouvelle création de Starmania ce débat télévisé entre cet homme qui ressemble un peu à Donald Trump, qui est un multimillionnaire, et puis ce gourou très écologiste qui existait en 79, mais en fait qui... très vite a disparu des autres versions. Bah, pourquoi fallait le remettre, ce débat et ce personnage?
D'abord parce qu'il y a des morceaux comme Paranoïa qui sont des grandes chansons. Et c'est une grande chanson. Paranoïa et la procession du grand gourou qui, musicalement, je trouvais très intéressante. Narrativement, ça permettait quand même que Zéro Janvier ne soit pas le seul candidat à l'élection de la présidence de l'Occident. Ça mettait aussi un enjeu, et puis pas n'importe quel enjeu, puisque le gourou marabout, vous l'avez dit, défend plutôt les théories de l'écologie, même si c'est une écologie de façade, visiblement, d'après ce que nous raconte l'histoire. Mais voilà, donc moi j'ai voulu remettre ce personnage-là, et ce débat, effectivement, a été repensé pour notre version, avec en plus de ça la version de 89, parce que en 89 le gourou marabout n'était plus là. C'est Roger Roger qui interview Zéro Janvier tout seul, et finalement et comme Roger Roger à l'époque était dans cette version un journaliste assez pointilleux, enfin qui allait chercher un peu griffer Zéro Janvier, on a transféré le texte de Roger Roger dans la bouche du gourou marabout. En fait, on a mélangé les deux versions du livret.
Alors, Thomas Joly, ça fait 3 ans que vous travaillez sur cette création de Starmania. Vous dites que donc ça a infusé dans votre tête pendant 3 ans à cause du Covid. Et vous dites que rien n'aboutit tant que le quatrième public est là, enfin le public est là pour regarder. Ouais. Qu'est-ce que vous avez appris lors des premières et depuis que Starmania est sur scène à la Scène Musicale?
Moi, j'ai été bouleversé et je ne m'attendais pas du tout à ça. Je n'avais pas réalisé, pour être tout à fait honnête avec vous, je n'avais pas mesuré plutôt à quel point Starmania est une œuvre qui fait partie du patrimoine intime de beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Et que, assis dans cette salle, devant le rideau fermé, les gens étaient déjà en fait émus. Et en même temps, ça se comprend, l'œuvre n'a pas été remontée en France depuis... Enfin, la dernière mise en scène date de 93. Et il y a beaucoup de gens qui ont été bercés par Starmania, l'album, le fameux album bleu, mais aussi les suivants, n'avaient jamais vu le spectacle. Donc je me suis rendu compte, en fait, et heureusement que je m'en suis rendu compte plus tard. Je savais que je prenais les clés d'un monument important de la musique. Je ne pensais pas que c'était un monument aussi intime.
Mais concrètement, ça veut dire quoi? Vous voyez quoi dans la salle? Vous qui êtes tous les soirs dans la salle actuellement.
Je vois dans la salle des gens qui pleurent dès qu'ils sont assis, dès qu'ils entendent les premières notes. Vous voyez, ça me touche beaucoup parce que c'est vraiment, pour moi, l'essence de ce qu'est une œuvre populaire.
Et est-ce qu'ils rient aux endroits où vous pensez qu'ils riraient, ou est-ce qu'ils sont effrayés aux endroits... comment on fait les réglages quand vous dites que l'accouchement attend la rencontre du public quand même?
Les avant-premières servent à ça, mais nous, dans le théâtre, on a nos générales qui nous servent aussi à ça. L'indicateur du public, on est enfermé dans des studios pendant 3 mois, on est sur une scène avec une salle vide pendant les dernières semaines. Et tout à coup, il y a des gens vivants en face. Et c'est bien ça la beauté de notre travail, c'est que ce sont des vivants qui regardent d'autres vivants. Et cette rencontre des vivants, elle est forcément à peaufiner, à régler, à préciser. Les avant-premières servent à ça. Alors les gens, oui, rient, applaudissent aussi à des endroits...
Qui vous surprennent,
ouais,
par exemple
Par exemple, dès le piano démarre très lentement, et puis dès le ta-la-la-la-la-ta-ta-ta-ta du tout début de l'introduction de Starmania, les gens applaudissent. Ou quand Zéro Janvier, alias David Latulipe, commence à faire « J'aurais voulu être un artiste » sur son artiste, les gens applaudissent, par exemple. Ça, je ne pouvais pas le prévoir. Et les gens chantent aussi.
Et ça vous plaît ou pas?
Bah, bien sûr. Enfin, en tout cas, c'est très beau, par exemple, sur la réinterprétation de la chanson « Un garçon pas comme les autres » que Alex Montembeau fait à la guitare. Les gens chantonnent. Ils ne chantent pas fort, mais on sent une rumeur. Qu'il ne m'aimera jamais. Voilà, la rumeur est dans toute la salle à ce moment-là.
Thomas Joly, vous dites qu'il n'y a pas besoin de mettre en scène les chansons dans Starmania. C'est le contexte qu'il faut traiter. Ça veut dire quoi exactement pour une comédie musicale ?
Alors, en tout cas, sur ce travail de Starmania, moi, ce qui me semblait un peu, pas raté, mais qui n'avait pas eu lieu, c'est que les chansons sont légendaires et qu'elles mettaient vraiment, faisaient de l'ombre, clairement, à l'histoire qui était racontée. Que l'histoire que raconte Starmania n'est vraiment pas une histoire inintéressante, voire même qu'il fallait mettre à jour. J'avais fait un sondage autour de moi. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire Starmania, par exemple ? Non. Bah, Starmania, c'est le nom d'une émission pour devenir une star. Elle est intégrée dans l'œuvre. Même la narration, c'était pas clair du tout. Donc, À quel besoin d'avoir Thomas Joly ou n'importe qui d'autre à la mise en scène pour continuer à ce que ces chansons sont légendaires déjà, donc elles le resteront. Par contre, dans quel écrin narratif elles s'inscrivent ? Je me suis dit que là, il y avait quelque chose qu'on pouvait certainement travailler davantage.
J'avais envie de terminer par la chanson de Ziggy. Je ne sais pas pourquoi, j'ai réécouté les paroles, j'ai l'impression que c'était autobiographique.
Un peu, c'est un peu vrai.
Hein, à 6 ans, je faisais de la danse.
C'est moi, tout à fait. C'est pas ma mère qui m'a forcé, c'est moi qui voulais. Mais effectivement, le personnage de Ziggy, oui, j'en suis très proche sur la volonté qu'il a de s'exprimer par l'art, par la création et par clairement un garçon plein de rêves et plein de projections fantasmées de lui-même, en tout cas une projection dans l'avenir plutôt lumineuse.
Avec une magnifique mise en scène, je dois dire, sans flagornerie, puisqu'en fait, pendant qu'il chante, il y a 12 autres Ziggy, qui sont des danseurs habillés en Ziggy, qui sont en train chacun de faire un truc différent. C'est vous êtes multitâche, Thomas Joly.
On a travaillé avec Sidi Larbi-Cherkaoui justement sur cette idée-là de démultiplication de notre Ziggy qui... Il n'est pas encore danseur de rock au moment où il chante la chanson, mais il se projette comme danseur de rock. Et donc, il a effectivement une douzaine d'alter-ego danseurs de rock, pour le coup, qui l'entourent.
Alors, pas encore d'enregistrement d'Adrien Fruit. Dans le rôle de Ziggy, on va écouter Grégory Ken en 1979.
Moi, j'étais un fils à maman. Tous les soirs, en m'endormant, elle me disait quand tu seras grand. Tu danseras le prince charmant dans la belle au bois dormant, dans la belle au bois dormant. Tous les samedis après-midi, pendant que les gars du quartier jouaient au football ou au hockey, moi je prenais des cours de ballet. C'est pour ça que j'avais pas d'amis. Musique a changé ma vie. Moi, j'ai changé mon nom pour lui. J'ai changé mon nom pour lui.
Merci Thomas Joly d'être venu aujourd'hui sur la 42e rue.
Avec plaisir Laurent Vallière.
Longue vie à Starmania, combien de temps ça va durer cette création?
Là on est jusqu'à la fin du mois de janvier à la scène musicale et en tournée dans toute la France pendant tout le printemps. Alors à suivre.
Et on vous suivra également parce que vous reprenez votre Harlequin poli par l'amour au Quai d'Angers du 6 au 10 décembre. Le Dragon, ça sera au Théâtre des Amandiers en janvier. Et Roméo et Juliette, l'opéra de Charles Gounod à l'Opéra de Paris à partir du 24 juin. Vous dormez la nuit?
Oui, je dors la nuit.
Vous faites des rêves.
Et je rêve beaucoup, oui.
Merci beaucoup Thomas
merci
Joly.
Beaucoup à vous.
C'est Jeanne Noël sur la 42e rue. Chaque semaine jusqu'au 25 décembre, on va vous offrir le livre 42e rue, la grande histoire des comédies musicales édité par France Musique et Marabout. Pour le remporter, il vous suffit de nous écrire d'ici mercredi de répondre à cette question. Ne répondez pas s'il vous plaît Thomas Joly. Quel était le premier metteur en scène de Starmania? Robert Hossein, Tom O'Organ ou Bob Fosse? Si vous savez, vous répondez, vous cliquez sur « Contacter l'émission » sur la page de 42e rue, sur le site et l'appli Radio France. On se retrouve en direct du Carreau du Temple. Ça sera dimanche prochain pour un nouveau cabaret 42e rue. On recevra la troupe de la comédie musicale de Noël du Théâtre du Châtelet, 42nd Street. On espère vous retrouver nombreux au Carreau du Temple. Réservation comme toujours sur maisondelaradioetdelamusique.fr. Le podcast de 42e rue, c'est sur l'appli Radio France et les sites de musique en ligne. Et puis vous pouvez me retrouver bien sûr sur tous les réseaux sociaux. Merci à Martine Monique qui m'a aidé à préparer cette 42e rue, à Manon Houssin à la technique et à la réalisation, à Patrick Lérisset. Je vous souhaite un très bon dimanche sur France Musique.
Rideau.
À réécouter sur francemusique.fr.